Alors, nous sommes vraiment très, très heureux de vous accueillir pour cette journée Yves Brossard. Il nous tenait, je ne sais pas si je peux avoir, est-ce que je peux avoir le... c'est bon, voilà. Il nous tenait vraiment à cœur d'organiser cette journée à la mémoire d'Yves, qui a été pendant de très nombreuses années le directeur du Centre d'hémobiologie prénatale, puis du Centre national de référence en hémobiologie périnatale, et qui nous a, je dirais, à peu près tous dans le centre national actuellement, mis le pied à l'étrier et nous a appris la grande majorité de ce que nous connaissons sur les sujets que nous allons traiter aujourd'hui. Alors Yves, je vais faire un tout petit rappel du parcours d'Yves et puis de la manière dont l'hémobiologie périnatale a évolué en France. Et c'est dans les années 50 que l'association La Transfusion Sanguine d'Urgence a été créée. Et ça dépendait du centre de transfusion sanguine de la Seine. Et c'était un service de la maladie hémolytique du nouveau-né, qui était déjà à l'époque une structure clinique et biologique destinée à la prise en charge des enfants et des exsanguino-transfusions. C'est une équipe mobile d'exsanguino-transfusions. Et je suis ravi, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais de voir aujourd'hui pas mal de gens qui ont participé à l'histoire du CNRHP qui sont présents dans cette salle. Et donc, le Centre d'hémobiologie périnatale a été créé en 1975. C'est une évolution vers une prise en charge globale depuis le dépistage, la prévention et le traitement de la maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né. Et puis en 2002, il y a eu une décision d'intégration de cette structure, le CHP, qui est une structure indépendante, d'intégration au milieu hospitalier. La proposition en a été faite à l'assistance publique. Et c'est comme ça qu'en 2004, a été créé le Centre national de référence en hémobiologie périnatale, qui a été intégré à l'hôpital Saint-Antoine avec des missions spécifiques de coordination nationale, de prévention, de soins, dans le domaine de la périnatalité, immunisation et équitaire néonatale. Et donc c'est Yves Brossard qui en a été le premier coordonnateur, mais il était déjà depuis de très nombreuses années le directeur du Centre d'hémobiologie périnatale. Et Yves est parti à la retraite en 2008, et pour remplacer cette seule individualité, il a fallu beaucoup de monde, hein, puisque le centre a été, je passe les détails, mais... donc dirigé pour la partie biologique par Agnès Mailloux, ici présente, voilà, pour la partie clinique par Anne Cortet et par moi-même pour la coordination. Et donc si je reprends les très nombreuses contributions d'Yves Brossard, j'ai été obligé d'interrompre la liste, mais vous voyez qu'il a été extrêmement actif dans de nombreux domaines. C'est quelqu'un qui a beaucoup publié dans ce domaine. Et je dirais que ses connaissances étaient bien plus énormes, bien plus étendues que ce qu'il a publié. Et à chaque fois qu'on cherchait des informations dans le domaine, qu'on avait des questions, et bien quand on allait l'interroger, il avait toujours une réponse. C'était vraiment un puits de science, vraiment au sens strict du terme. Et donc les grands domaines dans lesquels il a été d'un apport vrament substantiel, c'est la prévention de l'alloimmunisation, le génotypage rhésus, puisqu'il a été vraiment à l'origine de la mise au point de la technique que nous utilisons actuellement, et puis dans le développement également des immunoglobulines monoclonales anti-D, où il a été un contributeur très important. Malheureusement, Yves, très peu de temps après son départ à la retraite, nous a quittés en 2012, et nous a quittés vraiment de manière inattendue. Il était en très bonne santé apparente, et ça a été vraiment un vide, à la fois bien sûr sur le plan scientifique, parce que nous avions encore beaucoup d'occasions de le solliciter dans tous les sujets sur lesquels nous avions des questions et auxquels il avait toujours une réponse. Et puis ça a été un grand vide sur le plan humain, parce que je pense que toutes les personnes à la fois du CHP, du CNRHP, mais aussi tous les gens avec qui il était en contact, et je pense qu'il était en contact avec à peu près tous les centres de périnatalité de toute la France, je pense que tout le monde était vraiment unanime pour reconnaître que c'était quelqu'un qui avait des qualités humaines vraiment totalement exceptionnelles. Et alors on vient de me dire que le fils d'Yves Brossard est présent ici. Voilà, je tiens à vous en remercier. Et vraiment, je crois qu'on est tous là pour témoigner de notre attachement à votre père. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitiez dire un petit mot. Oui. Merci.
Bonjour à tous. Non, juste pour remercier professeur Carbone, Agnès Maillot et toute l'équipe du CNRHP, parce que ma mère avait pour habitude de dire que le CHP était peut-être la seconde épouse de papa, et puis le CNRHP, pour y avoir contribué avec l'équipe ici présente, peut-être son quatrième enfant, tellement c'était à la fois, comme le rappelait le professeur Carbone, autant l'apport scientifique de papa a été fort, même s'il en parlait peu, autant nous avons été beaucoup impliqués, et il nous consultait pas mal sur la discussion avec les tutelles, et notamment la création du CNRHP, qui n'a pas toujours été évident avec cette discussion avec les tutelles. Donc je voulais encore remercier l'ensemble de l'équipe, au nom de la famille, ma mère, mes frères et sœurs, de l'hommage qu'il lui a rendu quelque part aujourd'hui. Merci infiniment pour lui. Merci.
Alors je vais maintenant faire un petit vraiment rappel très rapide historique sur la question de la maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né. C'est un syndrome qui a été décrit assez largement par plusieurs équipes de manière indépendante au début du XXe siècle sous le nom de d'Anazarc fœtoplacentaire de Schrid, Ictergraph de Pfannenstiel, anémie des Klein, érythroblastose fœtale. Et toutes décrivaient la même chose sans savoir exactement quelle était l'origine de cette maladie. Et c'est dans les années 30 que Ruth Darrow a mis en évidence un phénomène de destruction des hématies fœtales. Et elle avait une intuition qu'il s'agissait d'un phénomène de réaction maternelle antifœtale, donc avec des phénomènes de réaction antigène-anticorps. Et le problème, c'est qu'on ne savait pas quel était l'antigène. Et l'hypothèse qui avait été mise à l'époque, c'est que ça pouvait être éventuellement l'hémoglobine fœtale. Et puis, dans la fin des années 30, Levin découvre chez justement une femme qui avait accouché d'un enfant en mort-né, en état d'anazarque, un anticorps irrégulier qui agglutinait les globules rouges de 80% des sujets de groupe O, donc normalement dépourvus des antigènes A et B, qui étaient les seuls que l'on connaissait à cette époque-là. Et donc très rapidement, ensuite, a été découvert le facteur rhésus et l'affirmation d'un phénomène d'alloimmunisation anti-rhésus chez les femmes qui ont accouché d'un enfant en tableau d'anazarque ou mort-né dans cette situation-là. Donc tout le XXe siècle a été marqué par des évolutions vraiment fondamentales et des découvertes extrêmement importantes. Et puis sur le plan thérapeutique, les premiers traitements ont été d'abord à la naissance chez les enfants qui avaient eu, je dirais, la chance de naître vivants et avec la description de l'exsanguinotransfusion à la naissance, puisque les transfusions simples pouvaient aboutir au décès par surcharge, par ictère. Et il a été montré que l'exsanguinotransfusion était efficace pour traiter l'ictère nucléaire, ou pour le prévenir en tout cas. Dans les années 50, on identifie le phénomène d'hémorragie fœto-maternelle à l'origine des alloimmunisations. Et puis, dans les années 60, on avait comme seul traitement de faire naître les enfants prématurément afin d'éviter qu'ils décèdent in utero d'anémie et d'anazarque. Et puis, une des grandes évolutions énormes, ça a été la prévention de l'alloimmunisation par les immunoglobulines anti-D. Là, on est dans la prévention. Et sur le plan thérapeutique, ça a été l'identification anténatale des anémies fœtales, et en particulier l'indice optique à 450 nanomètres avec le fameux diagramme de Lillet, et puis les premières thérapies fœtales in utero avec les transfusions intrapéritonéales. Et donc le schéma peut en paraître simple. Vous voyez ici le fait de mettre une aiguille dans l'abdomen fœtal avec un petit cathéter et faire une transfusion intrapéritonéale, les hématies étant résorbées, réabsorbées par le système lymphatique pour se retrouver dans la circulation fœtale. Alors, si on se reporte aux années 60, il faut bien comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas d'échographie et que ces gestes étaient réalisés sous radioguidage. Et donc, c'était fait sous radioscopie. Et vous voyez ici donc, le rachis maternel, le rachis fœtal. Et la première chose que les opérateurs faisaient, c'était d'injecter du produit de contraste dans la cavité amniotique pour mieux définir les contours du fœtus. Ensuite, avec une aiguille de Thuohy, de ponctionner l'abdomen fœtal, d'injecter à nouveau du produit de contraste. Et vous voyez ici le produit de contraste qui va se diffuser entre les anses intestinales, ce qui permettait de vérifier qu'on était bien dans la cavité péritonéale du fœtus, et ensuite de transfuser avec du sang dans l'abdomen, et ça faisait comme ça une mare d'acide fœtal, enfin d'hémopéritoine, qui a été ensuite résorbé traiter. Alors bien sûr, c'est des traitements qui ne se faisaient qu'à des stades relativement avancés de la grossesse, au troisième trimestre, et avec des gains qui étaient de quelques jours ou quelques semaines pour éviter des grandes prématurités qu'on ne savait pas bien prendre en charge à l'époque. Sur le plan du diagnostic prénatal et de la thérapie fœtale, les évolutions suivantes ont été vraiment décisives, en particulier le fait de pouvoir faire des transfusions intravasculaires. Et les premières transfusions étaient faites sous fœtoscopie au début des années 80. Et puis, une très grande évolution amenée par une équipe française, ça a été la bore sanguin fœtale éco-guidée par l'équipe de Fernand Dafos. La base génétique du système Rhésus a été décrite par également une équipe française, avec en particulier Yves Collin qui sera là cet après-midi. Et puis, dans la simplification ensuite de la prise en charge, il y a eu l'utilisation de plus en plus maintenant universelle du pic de vélocité de l'artère cérébrale, donc au Doppler, pour identifier les fœtus anémiques. Et donc aujourd'hui, une transfusion fœtale, ça se produit de manière beaucoup plus simple. Et vous voyez que donc, sous éco-guidage, vous voyez ici le placenta, l'insertion du cordon, la tête fœtale et puis l'aiguille qui va venir ponctionner. Mais on n'est pas encore toujours à l'abri de surprises, comme vous allez pouvoir le voir. Puisqu'une des premières choses qu'on fait, c'est d'essayer d'immobiliser le fœtus en injectant un curare dans sa circulation. Vous voyez que ce fœtus, avant d'être curarisé, va venir nous saluer avec sa petite main, qui va venir tranquillement poser sur le cordon, donc qui nous rend un petit peu mal à l'aise pour poursuivre la transfusion. Il va venir pianoter sur son cordon, jusqu'à malheureusement désinsérer l'aiguille. Donc c'est un geste qui maintenant est beaucoup plus facile de réalisation que les transfusions intrapéritonéales des années 60, mais ça n'est toujours pas complètement dépourvu, ni de difficultés, ni de complications. Vous voyez ici le petit jet de sang lorsque l'aiguille se désinsère. Ah, par contre, je ne sais pas si je vais pouvoir avancer. Voilà, donc je vais présenter très rapidement ce qui a pu être fait au CNRHP au cours des dix dernières années sur le plan du diagnostic prénatal, de la thérapie fœtale. Donc on a travaillé sur les conséquences cérébrales des anémies fœtales, sur l'utilisation du pic de vélocité également dans les hémorragies fœto-maternelles, puisqu'il y a certaines situations où on peut traiter ces hémorragies in utero par des transfusions fœtales. Sur les transfusions très précoces, sur les complications des transfusions in utero, je fais juste un survol de tous ces aspects puisque beaucoup d'entre eux vont être présentés et sont dans le programme de la journée d'aujourd'hui. Les particularités des immunisations autres que le Rhésus, un travail fait par Pauline Thomas qui est sage-femme, la stratégie, le tamis des transfusions qui va être présentée par Stéphanie Frieser, les présentations cliniques de l'infection par le parvovirus B19, par Guillaume Massé, et puis les techniques de transfusion, d'exsanguinotransfusion qui a fait l'objet d'un travail comparatif avec l'équipe de Lille avec qui nous avons débuté cette collaboration que nous espérons poursuivre le plus longtemps possible. Sur le plan de la prévention, le CNRHP a travaillé pour les recommandations pour la pratique clinique de 2005 avec le Collège des gynécos, la Société de médecine périnatale. Il y a eu un gros travail d'analyse médico-économique sur la prévention, dont les premiers résultats vont être présentés cet après-midi. Et puis le CNRHP a participé au travail très important fait par le LFB pour le développement d'une immunoglobuline monoclonale. Et il y aura également une présentation là-dessus cet après-midi. Sur la prise en charge néonatale, je pense qu'une diapo n'y suffirait pas. Et Anne Cortet va tout à l'heure vous présenter les avancées qui ont été faites ces dernières années sur cette prise en charge néonatale. Donc je vais maintenant passer la parole à Stéphanie Huguet-Jacot qui va présenter les aspects biologiques également. Beaucoup vont être développés dans cette matinée. Voilà, et je voudrais à titre personnel vraiment remercier encore une fois Yves Brossard de tout ce qu'il a pu nous apporter et de tous les développements qu'il a débuté et que nous espérons pouvoir poursuivre après son départ. Merci beaucoup.